Ok, donc on est enregistré, ne faites gaffe. Voilà. Donc merci à vous d'être venus, merci de votre patience à faire la queue, merci de votre diligence à vous inscrire, etc. Merci messieurs d'être avec nous. Monsieur Le Teurtre, là-bas au bout, vous êtes metteur en scène de théâtre, vous êtes aussi comédien, vous avez une formation de comédien. Philippe Pioret, vous êtes réalisateur, vous avez une formation de technicien aussi. Ouais, c'est ça. Vous aviez fait une formation pour être ingénieur du son, vous aviez eu... Non. mais vous faites réaliser des films depuis une vingtaine d'années. Et avant ça, vous avez été ingénieur du son de direct pendant 15 ans. C'est ça.
Oui.
Monsieur Cordier, qui est bavard. Robert Cordier, merci beaucoup d'être ici.
Ben, merci d'être là. Merci d'avoir mis là.
Je remercie Émilie, Marie, Flore, des personnes qui vous fréquentent de près pour avoir fait l'intermédiaire pour qu'on puisse vous inviter ici. Il y a des choses secrètes qu'on ne dira pas, mais on en parlera après si plus tard tu veux. Ça, c'est bien grillé.
Il y a un quart de page dans le Parisien.
Alors. Voilà, vous êtes Parisien, c'est assez marrant. Moi, je suis Hélène Deroux, je suis scénariste. C'est moi qui vous ai accueilli toutes vos inscriptions sur Internet, donc je vous connais tous par cœur, pas de problème. Je suis un peu réalisatrice, pas assez à mon goût, et je suis surtout extrêmement curieuse. Donc cette année, on fait la rentrée sur la vie avec son acteur. Quels sont les comédiens dans la salle? Comédiens, comédiennes?
Waouh!
Voilà, c'est bon. Alors, les réalisateurs.
Au revoir.
Ah, quand même! Des gens qui font juste du théâtre, est-ce qu'il y en a?
Ah oui. Ils font aussi du théâtre.
Oui, mais qui font les deux. Et il y en a qui font ni rien, ni l'un ni l'autre, qui sont pharmaciens. Ou non. Il n'y en a pas.
Pas de pharmacien?
Si je... Ah si, il y en a une là. La dame en rouge. Vous êtes pharmacienne?
Ah non, non, mais je fais rien.
Merci à vous, bravo beaucoup. Bon, la direction d'acteur, c'est un vaste sujet. On va pas commencer.
C'est quoi?
Là, ça va être la question de la soirée. Je me rends compte que c'est à la fois une question compliquée à laquelle on peut répondre très simplement et dans laquelle on peut s'engager longuement. Monsieur Cordier, quand je vous ai eu au téléphone pour vous demander de venir, vous m'avez dit pratiquement tout de suite: ah non, la direction d'acteur, j'aime pas ça. Vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Il faudrait qualifier ça, c'est que j'aime trop les acteurs pour les diriger. Je crois que l'acteur le plus fort, c'est celui qui se dirige lui-même. Je crois que le metteur en scène qui ouvre l'acteur à lui-même, à ce qu'il est devenu, lentement, comme disait Jouvet, que je redécouvre, c'est celui qui est capable de laisser parler son inconscient, son intellect à une vélocité intuitive. Toute parole superflue le bloque fatalement. L'acteur doit savoir certaines petites choses à partir de grandes choses. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est, il y a un objectif, il y a à faire, sentir, voilà. Une émotion. L'acteur est quelqu'un qui apprend à se diriger lui-même dans l'instant. Après, et bien sûr, il faut l'ouvrir à des tas de choses, mais c'est plus le terme lui-même que je n'aime pas, direction d'acteur.
C'est que des disciplines qui vous embêtent?
Non, c'est un terme. Quand moi j'ai passé, je suis acteur depuis que je suis né, comme nous tous. Après, on a 3, 4, 5 ans, et comme disait Michel Bouquet si brillamment l'autre jour, mon métier c'est d'être un enfant, pas d'être intelligent, pas que je sois con. Hein, mais c'est exactement ça, on en arrive là. L'acteur a besoin, j'ai eu la chance de côtoyer, de travailler, de monter des spectacles. Par exemple, j'ai pas monté le spectacle avec Bergman, mais j'ai monté son duo, Nora Julie, Maison de Poupée, réécrit par Bergman, et Mademoiselle Julie, écrit par Bergman, qu'il fallait monter dans un petit théâtre. Je sais que j'avais un petit théâtre. Il avait un grand théâtre en Allemagne parce qu'il avait été banni pour cause fiscale de la Suède. Et il avait refait un petit théâtre dans un grand théâtre en Allemagne. Et il m'avait dit, fais attention, parce que dans le petit théâtre, c'était petit, mais on sentait qu'il y avait un grand théâtre autour et que c'était un piège. C'était une astuce. Quand je l'ai monté comme ça tout seul, ça fonctionnait. Il m'a dit, les acteurs ont besoin de savoir les choses les plus simples. Quand est-ce que je pose le ton, quand est-ce que je le prends, quand est-ce qu'il m'avait raconté quand il avait monté Moïsec, qui est une pièce magistrale de spécificité. Et voilà, et tous les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai pas été à l'école avec Jean Racine non plus. Mais j'ai eu la chance d'avoir les derniers grands professeurs de la tradition française, rue Blanche, c'est-à-dire des messieurs comme Jean Le Goff, qui avait fait ses débuts avec Copeau, dans la première troupe du Vieux Colombier, avec Guilin, avec Jouvet, et tout ce qui est devenu le mythe du théâtre français qui a fait dire à Camus, il y a le théâtre français avant Copeau et après Copeau. Aujourd'hui, la plupart des gens disent qui ? On ne sait pas qui c'est Copeau, mais on arrive à tout savoir qui est Jésus-Christ. Donc, on avance bien dans la culture. Et j'ai eu quelques répétitions, puisqu'après je me suis disputé avec Philippe, je suis parti en Amérique, avec Jean Villard, en tant, pas que professeur, il était brillant, parce qu'il vous ouvrait la boîte. Ah, il y a des sardines dans une boîte. Allez, on va manger des sardines. Vous donnez la boîte.
C'est le metteur en scène qui donne la boîte.
Oui, il dit voilà, c'est l'auteur, il apporte une boîte, et il y a des sardines, il y a des maquereaux.
Ça, c'est le texte, des poissons.
Oui, le texte qui cache le sous-texte, qui va organiser l'œuvre dramatique, qui sont des choses pour aller de l'avant, et pas pour être dans des musées. Une grande œuvre, c'est quelque chose qui va vers le futur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on monte encore les grands classiques. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec. Mais où sont les sardines? Elles sont dans la boîte. Mais qu'est-ce que je mords avec mes dents, où on parle des sardines, le futur des sardines, la magie des sardines. Non, comment ouvre-t-on la boîte ?
C'est conceptualiser les sardines, est-ce que ça sert à quelque chose ?
Voilà, le concept n'existe pas. Il faut ouvrir la boîte. Et après, on va voir si on met les sardines à la catalane, ou si, ou ça, etc., etc. Donc, en dessous de ça, il y a l'inconscient. D'arriver à laisser faire l'inconscient, c'est le grand travail du metteur en scène, que l'acteur se sent. D'abord, il s'est débarrassé de son ego au vestiaire, comme on ne va pas danser avec une fourrure, avec un manteau, avec des fourrures et des choses. On va danser comme ça, c'est simple. On met ses vêtements au vestiaire. Ah, et l'acteur doit mettre son ego au vestiaire. Donc le metteur en scène doit l'aider à se débarrasser de son ego, parce que l'ego, il est mauvais conseiller, il va t'emmener dans, bien sûr. Donc moi, la première répétition que j'ai eue avec Villard, qui avait été mon professeur, qui avait été dans le jury quand je suis entré rue Blanche, et puis chez Bulin, et puis à Chaillot, cet énorme vaisseau, je vais jouer Thébaldeo de Lorenzaccio avec Gérard Philippe, et puis Philippe Noiret, camarades, et là il me fait travailler une scène de Cléante de l'Avare, et il est dans la salle. Je lui dis, qu'est-ce que je fais maintenant, Cordier? C'est vous le comédien, pas moi. Allez, allons-y. Et j'ai tout compris. J'ai su que c'était... Bon, après, bien sûr, il faut savoir beaucoup de choses, il faut aider l'acteur. Moi, je ne suis pas absolutiste, j'écoute l'acteur.
Alors, moi, j'étais.
Voilà, et monsieur, il y aura des choses intéressantes parce qu'on prend des notes et après on ne s'en sert pas. Ben, elles sont dans notre machine, si vous voulez. Ah, et dès qu'on parle trop à l'acteur, on confusionne l'acteur. J'ai vu Lee Strasberg, qui était parfois un brillant, brillant professeur, mais qui était tout simplement pas un metteur en scène, comme c'était le début de ma bagarre avec Philippe. Je lui ai dit, vous n'êtes pas metteur en scène. Ah, j'avais 17 ans.
Gérard Philippe.
Oui, il jouait Lorenzaccio. Donc, je suis parti, c'est mon ami Michel Petit qui l'a joué, puis Roger Coggio, etc. Mais ça, c'est important.
pour le réalisateur, le metteur en scène, de comprendre que c'est l'acteur qui, éventuellement, sera en point de mire à se révéler avec le public. Ça ne sera pas le metteur en scène, ça ne sera pas l'auteur, ça sera l'acteur. Et c'est pour ça que moi, j'adore les acteurs. Parce qu'ils sont un cul de dingue dans leur terreur d'aller se présenter là. Ou d'être simplement devant un grand réalisateur. C'est arrivé à un de mes anciens élèves il y a 2-3 ans. Il fait un film avec Tarantino. Et Denis Ménochet m'appelle. Après, il a ramé pendant 7-8 ans avant de trouver un premier grand rôle, un premier rôle. Il m'appelle et il me dit je vais faire un film avec Tarantino, je peux t'inviter à déjeuner. Je dis à Denis, oui, mais on est allé déjeuner. Denis avait des problèmes personnels, la sexualité, etc. Je lui dis, il faut qu'il fasse un choix. Voilà.
Il est d'accord pour parler de lui comme ça. Là.
Et donc il me dit, voilà, comment t'as rencontré Tarantino? Ben, il me dit, c'est à travers Carbone, le directeur de casting, va dans l'Espagne. Et il est arrivé dans une petite pièce, il y avait Tarantino devant lui, Pulp Fiction. Et Tarantino lui dit, bon, Dennis, you're a French actor, vous êtes un acteur français, vous allez me dire que vous parlez l'anglais, je vais rien comprendre. Et il dit, non, I speak English, I speak very good English. Yes, I learn English, I speak English. Oh yes, you do. Oui, vous parlez bien l'anglais. Ok. Ça vous embête si je reste près de la caméra pendant que vous faites votre bout d'essai? Et il dit, non, ça ne m'embête pas. Et il me dit, il était à 50 cm, là, Tarantino, regarde. Et il dit, mais je croyais que les réalisateurs américains ne parlaient pas aux acteurs et qu'ils n'écoutaient pas les acteurs. Il dit, non, ils n'écoutent pas les acteurs, ils ne parlent plus aux acteurs. Mais moi, oui, je suis un acteur moi-même et j'aime les acteurs. Il dit, ok, d'accord. Ah oui, parce que c'est mon professeur qui m'avait dit ça à propos des... Il me dit, c'est qui votre professeur? Il me dit, c'est Robert Fournier, Leslie Chazorlet, Tingatin. Ah oui, je connais. Ah oui, très bien. Allez, on fait le truc. Et à moitié du truc, il dit, you got the part. Il ne sait toujours pas ce que c'est là. Donc, si vous avez vu le film, c'est une scène de 22 minutes. Hein. Ils sont deux dans la scène, l'allemand et lui, les 20 premières minutes du film. Donc, il ne sait toujours pas ce que ça va être. Et puis, il me dit, vous avez le rôle et je vais en rajouter. Et, ah ben merci, mais je ne sais toujours pas ce que c'est que le rôle. Et il me dit, ah oui, mais vous le verrez bien, vous verrez. Et il me dit, monsieur Tarantino, vous pouvez me dire quelque chose? Pourquoi vous m'avez pris moi? Et il dit, parce que vous êtes le premier acteur français qui vient pour jouer au lieu de parler. Thank you.
Ah.
Voilà, donc l'acteur joue, il raconte une histoire. Donc après, vous, je vais me taire.
Voilà, vous avez parlé d'amour.
Ouais.
L'amour indispensable.
L'amour est indispensable.
Voilà, l'amour des comédiens et l'amour que les comédiens veulent donner.
Il faut les libérer, les mettre à même d'exprimer leur amour.
Et donc il y a un regard et une écoute,
bien sûr.
Certaine.
Si on lit ses notes ou qu'on fait
J'essaie de faire une transition, mais j'ai du mal.
Non, mais...
Attendez, monsieur Cordier, faut que je passe la parole à vos collègues.
Après, je ne parlerai plus.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est... C'est tellement mystérieux, on ne comprendra jamais comment ça se passe. À un moment, l'acteur peut savoir une toute petite chose et pas un flot de paroles. Les gens avec qui je travaille, je travaille avec beaucoup de gens, disent, mais tu n'es pas le même quand tu es professeur et quand tu fais une mise en scène. Et ça n'a rien à voir, parce qu'on se méprend là-dessus aujourd'hui. Il y a tellement d'écoles de théâtre, il y a tellement de charabia. Il y a tellement, on est comme tous des bateaux qui se véhiculent avec des cornes de vol. Kotowski, Strasberg, le Jouvet. Et le bon acteur, ce qu'on est là. Voilà. Donc maintenant, il faut simplifier les choses. Hein, il y a un objectif. On a des actions. Et l'action, c'est ce qu'on fait pour accomplir l'objectif. Et sur ce chemin, il y a des... Ce que Pacino dit, c'est toujours ce qui sauve ton cul, c'est les activités. Hein, ne fût-ce que ça, ou Brando qui...
Et les gestes, c'est ça.
Ben oui, mais les gestes qui viennent de l'inconscient, qui... Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Seulement, ça prend toute une vie pour vraiment savoir le faire. Et le réalisateur, le metteur en scène, est là pour aider l'acteur.
Donc, être comédien, c'est un métier. Un métier... Ça
s'apprend. Ouais, oui.
Mais être directeur d'acteur, c'est un métier.
C'est une audace de dire, je vais dire aux autres comment faire.
Ça s'apprend.
Et le meilleur, il apprend à ne pas leur dire comment faire, mais leur dire quoi faire. Je pense.
Premier micro, je vous en prie.
Allez.
Allez-y. Merci.
Bonjour. Bonsoir. Je t'écoutais et t'as entièrement raison sur tout. Et je. Oui, oui, non, mais oui, c'est passionnant. Mais je me disais aussi que.
C'est pas tout.
Je me faisais la réflexion que la différence entre le cinéma et le théâtre était encore plus énorme que je croyais. Parce que. On plonge dans des trucs insondables dans le théâtre, mais dans le cinéma, on plonge dans d'autres trucs insondables, différents. Je me suis retrouvé un jour avec un scénario où j'avais un gamin kurde de 17 ans qui parlait, qui était censé baragouiner l'anglais suffisamment pour que le film ne soit pas sous-titré en anglais quand il parle anglais pour les anglo-saxons, puisque nous on travaille aussi pour l'international. Il fallait qu'il ait du charisme, il fallait qu'il soit. Qu'il ait de l'enfance en lui. Quand j'écrivais ça, j'avais des sueurs froides. Je me disais, il n'existe pas dans le monde, ce garçon. Déjà, les Kurdes, vous en connaissez, vous? Qui connaît un Kurde ici?
Oh, mais elle croit
qu'elle est. Qui connaît un Kurde de 17 ans? Et voilà, ça fait plus que deux. C'est un garçon ou une fille?
Un garçon.
Vous aussi?
Une fille.
Voilà, ça fait plus qu'une.
Ils peuvent s'en produire.
Non, mais. C'est compliqué, hein. Et donc le casting, évidemment, on passe à travers les arcanes du casting, et donc on trouve un jour, par hasard, ce jeune garçon qui n'est pas celui qui veut jouer. Parce que j'en vois plein, moi, qui sont pas vraiment des Kurdes, qui sont Turcs. On dit qu'ils étaient Kurdes, pas Turcs. Mais moi, je n'ai absolument pas fait la différence. Et voilà, me débarque un jour un gamin poussé par sa sœur. Qui vient là en mâchant du chewing-gum et tout, et qui, comme elle m'avait dit sa sœur, m'avait dit, il y a bien mon frère, mais c'est un branleur. Et je tombe sur le pire branleur de la Terre. Il n'en a rien à foutre. Ça commence comme ça, on est assis sur deux chaises, dans un endroit qui est à peu près, qui ressemble à peu près autant à une voiture qu'ici, quoi, avec une caméra vidéo devant nous. Il a soi-disant repris la scène. C'est surréaliste, hein. On est dans une voiture. Ça, en fait, des mots, quoi. Et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je peux. Ah non, c'est pas toi que je disais ça.
C'est pas ça.
Je peux pas imaginer faire des essais en mettant deux acteurs que je connais pas, et même si je les connais, mais je les ai jamais vus dans le rôle, face à face, pour faire un essai pour un rôle. Parce que je me dis, si lui, il est. Formidable, et que l'autre, il n'est pas formidable, il va me le tuer. Donc je préfère prendre la pige de moi-même. C'est-à-dire, je sais, moi aussi, je sais que je vais faire tout pour lui. Rien pour moi, tout pour lui. Donc je lui connaîtrai le texte, j'essaierai d'être bien dedans pour être en intimité avec lui et qu'est-ce qu'il a à renvoyer, ça soit juste. Donc je fais ça pour tous les acteurs. Je sors du casting épuisé. Épuisé. Parce qu'en plus, à chaque fois, il faut raconter toute l'histoire du film à chacun pour qu'on se sente valorisé, c'est normal. Puis après, qui est son personnage, le rôle, le machin, le truc. C'est beaucoup de gens, quoi. C'est toujours. Bon, bref, je suis avec ce gamin et nous voilà partis boum, dans la voiture. Et il s'en fout. Mais il s'en fout, ça se voit, quoi. Et donc voilà, ça se termine, je lui dis salut, au revoir, on vous rappellera quoi, en gros.
En gros, dans votre tête, c'était non?
Bien sûr que c'était non. Et puis, je me retrouve avec Vue d'un seul œil, devant moi, sur un écran de télé, trois jours après, tous les essais que j'avais fait passer, dont lui. Et il est mauvais, quoi. Mais il me touche. Je sais pas quoi. Quand j'étais en face de moi et que je lui donnais la réplique, il ne me touchait pas du tout, j'avais envie de le gifler. Mais là, il me touche.
C'est touchant,
et je me dis, J'appelle mon assistante Jessica, je dis, viens voir, regarde. Elle regarde, un, l'autre, je lui montre 4-5 à la suite. Je dis, alors ? Elle me dit, oh, t'es quoi ? Je dis, tu trouves aussi, hein ? Je dis, ben, c'est bizarre, mais ouais. Donc, il revient, il refait des essais. Déjà, il habite samedi. Donc, revenir dans le 9e et tout, je me dis, s'il revient, il aura peut-être envie. C'est, on fait des découvertes. C'est un puissant fond. On peut s'y perdre dans
un... Quoi, Saint-Denis, c'est un puissant fond ?
Non, mais chercher une aiguille dans une botte de foin comme ça, c'est terrible. Le mot revient et tout. Au bout de... Je vais revenir 3-4 fois. Puis au bout de 3-4 fois, il se passe un truc, quoi. Il commence à être vaguement à l'aise et tout. Et c'est là que c'est dangereux. D'un seul coup, s'il est trop à l'aise, il va se prendre pour un acteur. Mais c'est foutu, là. Parce qu'il a tout à apprendre en... Mais voilà, il continue à s'en foutre juste ce qu'il faut et tout. Et voilà, je prends le pari de prendre ce room. Je me retrouve, comme je te disais, le premier jour de tournage avec. C'est plus la même chanson là. Il y a 60 techniciens, on est dehors, il y a 150 figurants, la nuit elle coûte une blinde. Et lui il est là, et si il arrive déjà, s'il vient, parce qu'il est tout, c'est pas le cas. Et puis quoi ? Voilà, si ça se trouve, il va bégayer son texte parce que. Ou poète, pas poète là du tout, quoi. Et si tu veux, quand je t'entends parler, je me dis que c'est extrêmement vrai, tout ça, dans la mesure où il y a un travail en amont avec les acteurs, etc. Mais que la grande faiblesse, mais aussi force du cinéma par rapport au théâtre, c'est aussi que. Je sais pas, vous prenez chacun cherche. Son chat de Clapiche là, celle qui fait la concierge là, c'est une vieille dame de 70 ans, elle avait jamais rien fait de sa vie, elle est géniale quoi. Et voilà, mais ça, lui là, ce gamin là, moi je peux pas le mettre sur une scène de théâtre, parce que c'est ce qu'on se disait, à un moment, il va être bien, mais il va falloir qu'il puisse reproduire ça. Et ça, là, c'est effectivement, il y a besoin d'avoir... Si ce n'est du métier, ça me gêne pas trop ce mot, mais un feu sacré. Un truc qui vous fait dire que contre vent et marée, à 7h vous serez dans votre loge, et que vous allez vous pisser dessus dans les coulisses. Ça va s'ouvrir, il va falloir y aller. Et ça, c'est, et là c'est un métier. Mais au cinéma, ce gamin là, voilà, j'ai discuté de ça avec Tahar Rahim qui me disait, mais. Parce qu'ils ont été un truc comme ça ensemble. Ensemble. Mais Tahar était déjà. Il avait déjà le et lui, bah, il est parti en vrille après le film et tout. Il a commencé à faire les folles nuits parisiennes, la coke et tout le bordel. Terminé, quoi. Terminé. Et puis là, voilà, il est tombé sur une jeune nana qui l'a un peu pris sous sa coupe. Il a recommencé ses études. C'est-à-dire qu'il a passé son bac. Et qui maintenant il a la fac et qu'il commence à aller un peu mieux et tout. Et que, voilà, c'est, je veux qu'il allait partir en vrai. Quoi.
Vous avez compris depuis ce qui vous a touché quand vous l'avez vu sur l'écran ?
Mais lui, parce qu'il avait 17 ans. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est qui il était à cet âge-là précis, à 17 ans. Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ou alors il faut qu'il fasse blablabla, rewind, qu'il reparte à zéro, qu'il se. Alors court ou pas court, mais qui se prennent, qui se disent je suis un acteur, qui se disent voilà, avec cette projection que, qui moi me fascine et me terrifie de vous voir là par exemple. Je me dis, quel courage putain. Non mais quel courage de s'embarquer là-dedans. Quel courage de se. Mais ouais, quel courage de se dire je veux mettre mon énergie, une part de ma vie, en jeu, dans ce truc qui est formidable et qui dure au mieux 1 heure par jour. Au pire, 1 heure par mois, voire 1 heure par an. Quoi. Non mais c'est pas grand chose, hein. Mais j'ai toujours gardé ce truc, ce sacré, cette envie d'être et tout. Moi je trouve que c'est admirable.
Richard, est-ce que le feu sacré, c'est une expression qui résonne dans votre réflexion et dans votre rapport avec vos comédiens ? C'est un peu particulier, votre troupe. Vous avez commencé à m'expliquer au téléphone avec qui vous travaillez. pouvez nous expliquer.
Oui, là en ce moment c'est particulier, je travaille avec des comédiens professionnels, puisqu'ils font ça tout le temps, ils sont payés pour ça, mais qui sont handicapés psychiques. Je suis en train de reprendre une pièce que j'avais montée avec eux, Peer Gynt de Ibsen. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que travailler avec des comédiens comme ça, ceux-là, est-ce que c'est différent de travailler avec d'autres comédiens? Est-ce qu'on a une autre méthode? Est-ce qu'on fonctionne autrement? Et c'est quelque chose que peut-être je peux revenir après, parce que diriger, quand on s'est mis d'accord pour venir, sur ce thème, la direction d'acteur, qui n'agrée pas forcément de la même manière entre nous trois, et je me suis dit, c'est quoi la direction d'acteur? Est-ce que c'est la direction d'acteur quand on met en scène? C'est pas exactement pareil que la direction d'acteur quand on enseigne. C'est pas exactement pareil que la direction d'acteur quand on travaille avec des enfants, des ados, puisque c'est pas mal mon expérience de travailler avec différents publics, des amateurs, des professionnels. Est-ce que la direction d'acteur, c'est la même chose? Et j'ai entendu deux choses de votre part, où vous rejoignez, il y avait le mot amour, il y avait le mot regard, toucher, être touché par. J'ai eu un très beau compliment la semaine dernière. Je faisais un atelier avec des lycéens, et donc premier cours, hein, c'est toujours la même chose, toujours le même atelier, c'est pénible au bout d'un temps, mais bon, même exercice. Et donc je demande à chaque intervenant, chaque personne qui est présente, je te donne une minute, tu te présentes pendant une minute, puis pendant une minute, tu n'arrêtes pas de parler. Puis je m'en fous ce que tu dis, en termes de véracité ou pas. Et c'est toujours extrêmement, c'est très simple, hein, j'invente pas des grandes choses, mais c'est extrêmement révélateur et ça met tout de suite, ça donne le ton.
C'est-à-dire que vous voyez des gens touchants comme...
Alors, forcément tout le monde a très peur, c'est comme ça, c'est la première fois qu'ils se présentent au public, mais surtout devant les autres, et c'est toujours très révélateur. Et donc il y a un lycéen qui vient, il a 5 minutes pour se présenter, il donne son prénom, il dit j'ai un frère et une sœur, mon père s'appelle Jackie, ma mère s'appelle Josiane.
C'est bizarre, Josiane.
Et ça s'arrête là. Et il y a une statue. Donc j'attends la minute, parce qu'évidemment, le jeu c'est d'attendre la minute. Ça dure, c'est très long, ça devient une minute qui devient une heure. Bon, puis au bout d'une heure, je dis bah, bravo, il t'a dit le truc. Respecter les consignes, tu reviens. Et il vient s'asseoir à côté de moi et il me fait « Je ne pouvais rien dire, j'étais tétanisé. » Et il me dit « C'est quand même étrange parce que même quand on ne fait rien, quand vous me regardez, c'est ça qui m'a empêché de parler, ça a l'air intéressant. »
Lui-même se trouvait intéressant en étant regardé par vous.
Il dit « Ça avait l'air intéressant parce que je ne faisais rien. » Je trouve que c'était un bon compliment. Pourquoi c'est un bon compliment? Parce que je pense que j'ai pu le regarder. Et je trouve que c'est ça, c'est le regard qu'on porte sur un comédien. Je ne sais pas comment on dirige un comédien, mais je sais qu'on regarde.
Et on est comédien. C'est bien de dire à un acteur que tu es très intéressant quand tu fais rien. Parce que c'est vraiment le début de lâcher prise.
Et c'est vrai qu'il n'avait pas l'air à l'aise, hein, il ne l'a pas fait sur lui, mais il n'était pas loin, je pense. Mais en même temps, c'était une densité. Et qu'est-ce que, moi en tout cas, ce qui m'intéresse, n'importe quel type de comédien, même un enfant, c'est la présence. La présence, mais qui à un moment donné surgit, ça ne dure pas, ça ne dure pas une heure de présence, hein, dans une pièce, dans un travail, dans une répétition. Il y a un instant de présence, et ça, c'est ce que je traque. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas qu'il fasse les pieds au mur, c'est pas qu'il dise un texte tellement bien, c'est pas qu'il respecte ma consigne, non. C'est qu'à un moment donné, il y a un endroit qui n'existe pas, dans lequel il va se fourrer et qui va m'arrêter.
Mais ça veut dire que vous vous donnez comme mission, comme objectif, de faire en sorte que ce moment de présence se reproduise, puisque c'est du théâtre.
Alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça. Est-ce qu'on va...
Si c'est des acteurs professionnels, vous les faites travailler.
Alors, avec des acteurs professionnels, excusez-moi, ça dépend. D'abord, il y a acteurs professionnels et acteurs professionnels. Ils n'ont pas la même école. Et il y a des gens... Il y a des gens qui ont une formation extrêmement cadrée, des gens par exemple une formation très brechtienne, très anglo-saxonne ou vitésienne, ils ne travaillent pas du tout pareil. Moi je pense que c'est un paradoxe, on ne dirige pas des acteurs, on dirige un acteur et puis un autre. Et puis dans la même pièce, il y en a 10, et on dirige 10 acteurs différents. Voilà. Et différemment.
Parce qu'ils ont tous 500.
Voilà, et ils ont tous 500, et ils ont tous une façon différente de s'approprier les choses. Et je dois avoir 10 façons différentes de les regarder. Parce que sinon, je vais faire quelque chose, enfin, je vais lui mettre une espèce de main forte. Alors, on parlait de Bergman. Bergman, c'est très bien, effectivement, il laisse les comédiens faire. Mais Bergman, sa direction d'acteur, c'est écrire au poil de cul près tout ce qui doit être fait, du costume, à la scéno, au déplacement d'objets, à la table mise là. Et l'acteur à l'intérieur de ça, bah, il trouve qu'il se formait de la même manière là-bas. Et en plus, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à faire. Donc. Voilà.
Parce que si, quand on écoute un peu les. Il y a des cinéastes et des metteurs en scène qui cadrent les choses comme vous le décrivez, tout en. On laisse un espace de liberté à l'acteur puisqu'il a les gestes. Et il y a aussi les cinéastes. Je pense à certains, mais c'est pas la peine de donner des noms, qui font leur travail sur l'improvisation de leurs comédiens, qui sont parfois non professionnels, et qui visent la justesse, la réalité. Donc il y a l'artifice, il y a le travail, le remodelage de ce qui a été réel à un moment pour en faire un artifice, tout ça extrêmement paradoxal.
C'est pas une science exacte.
Non, c'est pas une science
exacte. On a beau essayer de ça.
C'est une science pas exacte.
Philippe, est-ce que vous avez l'impression quand vous êtes avec les acteurs de faire de la direction d'acteurs? C'est un moment bon. C'est le moment du tournage où là je suis avec les comédiens, je leur dis quoi faire.
Oui, parce que c'est ça, parce que c'est pas. Moi quand j'étais à Général Duchamp, j'ai fait pas mal de films anglo-saxons. Il y a un monde entre un plateau et un film anglo-américain et un film français. Je le voyais quand j'étais. Il y a un monde. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le. Il y a un côté militaire dans le cinéma anglo-saxon, qu'on peut refuser, mais qui est devenu une norme, c'est-à-dire que tout petit, ils prennent ça très au sérieux. On est dans un pays où on mettait les comédiens dans la fosse commune. Pignouf, et on continue à l'être un peu pour beaucoup. Je sais pas ici, quand vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez être acteur, la gueule qu'ils ont fait, mais on sait très bien, moi, quand j'ai commencé à annoncer que je voulais faire du cinéma chez moi, on m'a rayonné. Mais là-bas, il y a d'autres cultures. Et cette autre culture, elle amène à ce que ce soit un vrai travail, qu'il soit vraiment reconnu. Et donc, on le fait souvent avec talent, mais le matin, la première mise en place sur un tournage, il est 7h du matin, 8h du matin, tout le monde se lève, a bu son petit café. Il y en a plein qui se sont couchés très tôt parce qu'ils savent que justement, il va falloir y être. Et puis ils ont énormément travaillé et la première mise en place, elle est finie. Cécile de France, elle me raconte que quand elle a fait le film avec Eastwood, là, il l'a vu dans le film, il a dit ah, bien cette fille-là. Il l'a croisé une fois dans un couloir à la production, il lui a dit ah, et où Cécile? Nice to meet you, see each other on the set. Et puis voilà. Et le matin, il a été sur le plateau, machin, truc, maquillage, tout le bazar de l'usine à gaz d'Eastwood, qui est très roulé parce que c'est toujours la même équipe. Et il a dit what about if we shoot the rehearsal? Qu'est-ce que vous en pensez si on filme la réalité? Et Matt Damon, tout le monde et tout, ils ont dit on filme la première. Et là, on se dit, on filme. Et là,
James
There isn't so many different things about acting.
C'est pas tellement difficile.
C'est ça Orson Welles. Orson Welles a vu l'Inspiration. Excusez-moi, j'ai connu Orson Welles. J'ai presque fait un film avec lui. C'était un monsieur extraordinaire. Mais d'une drôlerie, il pouvait péter, fumer un cigare, pratiquement se faire sucer, faire des dessins sur la table, en même temps, simultanément. J'ai passé 10 heures d'affilée sur le tournage du procès à la garde d'Orsay. Et j'avais un projet d'un livre de William Styron, La Proie des Flammes, c'était Sounds on Fire. Il avait lu le livre et il se croyait qu'on le voulait en tant qu'acteur, mais moi je le voulais en tant que réalisateur. Donc il m'a fait une liste de gens avec qui il travaille et une liste de gens avec qui il ne travaillait pas. Et il dit, moi mon acteur maître, c'est James Cagney. Et je lui dis, don't you think he's sometimes a ham? Il est un peu cabotin, parce que Cagney c'était... Il dit, non, because he's never bigger than the truth. Parce qu'il n'est jamais plus grand que la vérité. Et il dit, mais c'est lui qui m'a appris qu'est-ce que c'était que jouer. Je dis, ah bon? Bah oui, quand il dit, je suis arrivé à Hollywood, je connaissais personne, je n'avais jamais fait de film, j'avais fait des merdes, mais j'avais fait du théâtre à Broadway, on connaît son Macbeth, etc. S'il a fait beaucoup de théâtre. Et Cagney lui a dit, it's not complicated. Just do it. Then it gets, juste fais-le. Et après, il dit, ça devient encore plus simple. Just do. Et troisième étape, do. That's it. Bye, Orson. Good luck. Et il a fait Citizen Kane.
Et pour finir avec Cécile, elle a donc fait cette première répétition et tout. Il a fini la répétition et il a dit nice, next shot. Et elle a compris que ça allait être comme ça pendant tout le film. Parce que tout le monde était bien. Et d'un coup, là, et je vais vous dire. C'est une réflexion qu'on s'est souvent faite. J'ai fait deux films avec Vincent. C'est un acteur avec qui on échange beaucoup parce qu'il prend beaucoup de place dans votre vie, presque dans votre livre, il a tout le temps. Et le truc, c'était vraiment de se dire mais ça existe. Le cinéma, il faut que ce soit comme au théâtre. C'est-à-dire que quand on fait le clap, c'est comme si le rideau se levait et qu'on n'a pas le droit de. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se dire il y en aura une après. On joue ça pour là, maintenant. Si on ne le fait pas, et si tout le monde ne le fait pas en même temps, c'est pas bien. Et les anglo-saxons, est-ce qu'on leur a expliqué un jour que c'était un vrai métier, que ça coûtait du pognon, et que si au bout de trois prises, ils ne sont pas bons, ils ne font pas d'autres, ils sont rentrés là-dedans. Quoi. Et franchement, tu parlais du cadre tout à l'heure, mais je trouve que, voilà. Ça, c'est un truc, putain, mais le cadre, on est tous à trouver notre liberté dans un cadre défini. Et que le cadre de la liberté, le cadre de l'acteur dans lequel il doit trouver sa liberté, plus il est étroit et meilleur vous serez. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est pour ça que moi, j'aime bien que on déconne, ça a l'air bien sympathique et tout, mais j'aime bien qu'on ait une sensation aussi de on a 8 heures pour faire un truc qui doit être mieux que ce qui est écrit sur le papier. Donc voilà, allons-y. Et là, la direction d'acteur, c'est con comme la lune, hein. C'est de s'asseoir. Enfin, moi, j'ai fini par me mettre à la caméra presque au début de mon premier film, 15 jours, je crois. Avec là que je jouais les acteurs, j'ai un casque sur la tête, je suis à la caméra, je suis près d'eux quand ils travaillent, quand eux ils travaillent, moi je travaille, je suis pas assis de cul sur ma chaise à regarder un écran, je travaille avec eux, puis comme je les sens vraiment dedans, je sais que moi j'ai pas intérêt à me planter, hein. C'est-à-dire que tout le monde est au taquet, le pointeur, c'est là d'un coup, faut que tout, c'est comme au théâtre, si le mec il loupe son. Sa lumière au moment où ça peut s'allumer.
C'est sans pardon.
C'est sans pardon.
Donc au cinéma aussi, il y a le moment.
Un moment d'urgence qui est absolument nécessaire. Et le drame du cinéma, c'est qu'on sait qu'il y a de la pellicule dans la caméra et qu'on peut en refaire une autre. C'est un drame.
Oui. Il y a un jeune acteur ici avec qui j'ai travaillé. Il a été mon élève. Il a été mon élève et on m'a fait cet été, pendant 3 mois, des.
Il est là
des tours. Oui.
C'est qui?
Il est là.
Okay.
des tournages de scènes d'un ami, ancien élève, Xavier Luringer, qui écrit des courtes scènes, de très courtes. Ben, il était là hier, hein, tu l'as vu. Et donc, c'est des choses qui sont écrites sur le dos d'enveloppe. Et quand il voulait être acteur, il voulait être acteur. Et puis, il y avait dans la classe, il y avait Gérald Laroche, il y avait eu Emmanuel Chollet, Vincent Cassel. Après, ils ont monté la deuxième pièce de Xavier ensemble et tout. Et un jour, j'ai dit à Xavier, tu ne vas pas faire l'acteur parce que tu es toujours en train de... Je suis un acteur et le public ne veut pas ça. Et tu vas te faire du mal. Par contre, écris des choses, parce que ça, j'en connais pas beaucoup qui ont ce flair de faire ces choses. Donc cet été, on faisait certaines de ces scènes, ça dure 4 minutes, 5 minutes, mais elles sont... Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avant ni d'après, elles sont simplement quelqu'un qui dit... Avant qu'il se passe quoi que ce soit, j'ai un mec dans ma vie. Ah, et ils sont partis sur un truc, donc ce jeune acteur merveilleux d'ailleurs... arrive et me dit comment on va le faire, où ce qu'on va le faire, qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va aux toilettes. Donc il y a une superbe fille qui est en train de se regarder dans le miroir, qui sort, et au début, voilà, et puis je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'elle te dirait une chose pareille avant qu'il se passe quoi que ce soit, qu'est-ce qui la force à dire cette chose? Elle m'a dit, ok, j'ai compris. Ça, c'est un acteur. Il est sorti, on a ouvert la porte, il est arrivé comme une fouine, il est passé derrière la fille, et elle lui a mis la main à la fesse. Et tout à coup, elle regarde dans le miroir et elle dit, avant qu'il se passe quoi que ce soit, je voudrais t'expliquer que j'ai un mec dans ma vie. C'est dommage qu'on n'est pas là, j'en parlais hier avec Xavier, tu vois. Et c'est merveilleux. Mais ça, c'est... L'acteur a besoin de savoir ce qui déclenche la chose. Après, ça a lui de le faire. Ça, moi, après, dernière scène à propos de Clint Eastwood, excusez-moi, c'est Meryl Streep qui me disait, c'est vrai qu'il ne fait qu'une prise, parce qu'il a appris ça de John Ford, qui était célèbre pour dire à ses acteurs, attention, je ne fais qu'une prise et je ne fais pas de contre-champ. Et il le faisait. Mais on m'a dit, non, il était radical, il faisait une prise et c'était quand il en faisait deux, il se fâchait. Donc, elle tournait les ponts de Madison County, là, comment ça s'appelle ?
6 semaines de tournage.
Voilà, et il y a la fameuse scène de la fin où elle tourne la manivelle du camion de machin, il pleut, Clint Eastwood se barre, etc. Et Meryl a fait Yale, elle a fait, mais j'ai pas de technique, je ne sais rien faire, je ne sais toujours pas, etc. Mais je dis, oui, mais tu écoutes. Ah ça, oui. Ben, je dis, c'est essentiel, c'est ça le talent de l'acteur, c'est l'écoute. Et donc elle dit, oui, elle me dit, mais il ne fait qu'une prise, donc je suis là dans le camion, c'est ma vie qui s'en va avec lui, le photographe qui se barre, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est une scène très touchante, et elle lui dit, but Clint, give me something, a little thing, Meryl, I gotta go, I'm going, I got to go, I don't know, je ne sais pas, je m'en vais moi. Tu es avec ton mari, je ne sais pas. Turn the manivelle. You know, tourne la manivelle. Elle dit, j'ai tourné la manivelle, j'étais nommé pour l'Oscar. C'est ça, il a rien de bon. Non, mais il faut savoir dire ça. C'est vrai. Hein.
Mais alors, la direction de l'acteur, c'est l'écriture du rôle.
Je ne sais pas ce que c'est.
Enfin, juste un truc, c'est que...
Moi,
je sais que la seule peut-être indication que je donne, ça dépend sur qui. Parce que des fois, sur des... Je parle toujours de cinéma, moi, parce que
je connais ça.
Mais, un jour va débarquer un acteur qui était absolument formidable aux essais. Vraiment formidable aux essais. Et là, il arrive, et c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que l'équipe est là depuis 4 semaines, que tout le monde se connaît, que le film est dans une dynamique de fabrication, qu'il y a une espèce de trucs de bon parfum de qui rôde du plateau entre les gens, ce mec débarque, il a une scène dans le film, quoi, un truc de rien du tout, il était formidable aux essais, et là il est complètement bloqué, quoi. Ben là on est un peu obligé de j'ai vu, je ne pas ma coupe, mais j'étais obligé de faire ça, quoi, de faire le perroquet, quoi, c'est-à-dire que je voyais qu'il était en perdition et qu'il avait besoin d'une main charitable, quoi. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et dans ces cas-là, je trouve la bonne position sur le plateau pour lui dire les mots avec ma musique, puisqu'il trouve pas la sienne.
Oui, dicter le texte avec la musique.
Et voilà. Mais ce que j'ai fait des fois avec les enfants, là, ce que j'ai fait des tout petits, je souhaite ça à personne au monde, 3 ans et demi, 4 ans, il y en avait 4. Là, c'est eux qui décident. Là, c'est pas rien dans tout ça. C'est, évidemment, ça ne sortait pas. Il y avait une scène à faire entre deux dans un plan à deux fixes, comme ça.
Deux gamins.
Deux gamins, 3 ans et demi et 4 ans. J'étais à la caméra et j'ai fini par leur dire le texte. Alain, puis le texte de l'autre, puis le texte de l'un, puis le texte de l'autre, et je le disais à toute vitesse pour avoir le temps de couper mon son à moi. Ouais. Et puis paf, paf, il vient là, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, ah, j'ai la coupe. Et je prenais le bouton du son de la vidéo, et dès que c'était moi qui parlais, je coupais, je prenais mes mains pour voir si ça faisait pas des carafes, quoi, pour eux, et si ça se tenait comme ça. Direction d'acteur.
C'est la manipulation.
Il n'y avait pas d'autre solution. Mais sinon, devant une scène, la seule chose qu'on peut dire, c'est dire j'y crois ou j'y crois pas.